Le débat. Africa numéro 1 Paris, BBC Afrique. Présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat. Africa numéro 1 Paris, BBC Afrique.
Bonjour et bienvenue. Bonjour Francis Laloupo.
Bonjour Liliane, comment allez-vous?
Très très bien, je peux me rendre compte à travers mon écran que vous êtes en très très bonne forme et cela me rassure.
Je peux en dire de même pour vous d'ailleurs, puisque j'ai votre image à l'écran.
Je confirme.
Je m'en réjouis.
À qui profite la rupture des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et Taïwan? Selon le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Alpha Barry, l'évolution du monde et les défis socio-économiques actuels du pays et de la région recommandent que le Burkina reconsidère sa position. Aussitôt le divorce annoncé avec Taïwan, la Chine et le Burkina Faso ont rétabli leurs relations diplomatiques. Mais cette décision va-t-elle réellement dans le sens de la protection et de la défense des intérêts du Burkina? On en parlera dans quelques instants. Le Cameroun n'est pas une sous-préfecture américaine, déclaration de l'écrivaine franco-camerounaise Calixte Beyala en réponse aux propos de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. La semaine dernière, le diplomate a dénoncé, selon lui, des assassinats ciblés attribués à l'armée camerounaise dans les régions anglophones, avant d'inviter le président Biya à penser, je cite, à la manière dont il voulait que le Cameroun se souvienne de lui. Peter Henry Ballerine a été convoqué par le ministre des Relations extérieures du Cameroun, certains soupçonnent Washington de vouloir créer une guerre civile dans le pays. Que vaut l'engagement pris à Paris cette semaine par des acteurs libyens d'organiser des élections présidentielles et législatives le 10 décembre prochain? Beaucoup doutent de la volonté des acteurs et de la capacité du pays à tenir cette promesse. D'ailleurs, plusieurs questions comme celle sur la sécurisation de ce processus restent à régler. L'optimisme observé au terme de cette rencontre de Paris est-il exagéré ou faut-il y croire? Débat à suivre. À présent, le plateau avec vous, Francis Laloupo.
Oui, Liliane Niacha, notre grand témoin invité dans cette édition au téléphone depuis Ouagadougou au Burkina Faso, Mélégué Maurice Traoré, ancien président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Monsieur le Président, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et notre confrère invité dans cette édition au téléphone depuis Yaoundé, ou plutôt Angola, c'est au Cameroun. Xavier Messé, bonjour. Xavier Messé.
Oui, bonjour, Francis, bonjour. Bonjour Messé. À tout le monde, bonjour à Liliane.
Xavier Messé, vous êtes journaliste indépendant et enseignant des sciences de l'information et de la communication dans les universités du Cameroun. Une petite fiche de présentation de notre grand témoin, invité Mélégué Maurice Traoré, né en 1951 à Kanka, là-bas, au Burkina Faso. Et après l'obtention d'une licence en lettres modernes et une autre en histoire, vous partez du Burkina Faso à l'époque Haute Volta, en 1975, pour poursuivre vos études en France, des études sanctionnées notamment par un doctorat en sciences politiques avec mention très honorable à l'Institut d'études politiques de Bordeaux et au Centre d'études d'Afrique noire, précisément le CAN, un diplôme d'études supérieures spécialisé également de diplomatie et administration des organisations internationales à l'Université de droit de Paris-Sud et un diplôme d'études approfondies DEA de lettres modernes et de littérature française antillaise et maghrébine à l'Université de Bordeaux 3. Vous avez bien d'autres titres, évidemment, mais on va s'en tenir déjà à cette liste impressionnante. Ambassadeur du Burkina Faso à Moscou de 1985 à 1988, vous serez ensuite élu député, puis président de l'Assemblée nationale de 1997 à 2002, ministre des enseignements secondaires, supérieurs et de la recherche scientifique de 1992 à 1997, président pour une période d'un an de la conférence des présidents d'Assemblée d'Afrique de l'Ouest de 2000 à 2001. Vous avez rempli les fonctions de président du comité interparlementaire de l'UMOA de 2007 à 2009 et vous êtes actuellement le vice-président de l'Association des ambassadeurs du Burkina Faso, conseiller des affaires étrangères de classe exceptionnelle et ministre plénipotentiaire à la retraite. Mélégué Maurice Traoré, vous serez notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. À vous Liliane à Dakar.
Pour le premier sujet, Francis, et nous allons parler des relations entre le Burkina Faso et Taïwan. L'une des conséquences du divorce entre Ouagadougou et Taipei est la démission du ministre taïwanais des Affaires étrangères. Joseph Wu a dit partager tristesse, colère et regret des Taïwanais face à cette rupture des relations diplomatiques que son pays impute à la Chine. En tout cas, le Burkina a clairement choisi Pékin et au lendemain de l'annonce du divorce, c'était la semaine dernière, le ministre burkinabé Mugabe des Affaires étrangères, Alpha Barry s'est rendu en Chine et c'était la première visite depuis que le Burkina Faso avait suspendu sa coopération avec Pékin en 1993. Monsieur le ministre et diplomate Mélégué Maurice Traoré, restait avec Taïwan, était-il devenu si intenable et pourquoi, selon vous, est-ce qu'il y a eu d'autres raisons, disons non officielles, qui ont pu justifier cette décision des autorités du Burkina?
Écoutez, je vous remercie. Je crois que nos rapports avec les Chinois ont suivi un itinéraire assez sinueux. De 61 à 73 avec Taïwan, ensuite de 73 à 94 avec Pékin, et puis 94 de nouveau avec Taïwan jusqu'à maintenant, et puis à présent on a rompu. Non mais, dans l'ensemble, vous savez, il y a une tendance générale dans les pays africains, mais vous la connaissez autant que moi, et qui fait qu'aujourd'hui, les pays qui restent avec Pékin sont rares, il ne reste plus qu'un seul. Ici, la politique étrangère d'un pays comme le Burkina Faso, qui n'a pas beaucoup de ressources, évidemment, est toujours basée sur le fait qu'on attend quelque chose de la diplomatie. Et ce quelque chose-là, c'est évidemment les projets de développement. Il ne faut pas se le cacher. On va là où on pense qu'on trouvera mieux. Taïwan a beaucoup fait pour le Burkina Faso entre 1974 et aujourd'hui. Mais de toute évidence, l'analyse du gouvernement burkinabé est que l'avenir ne se trouve plus là, l'avenir se trouve avec Pékin.
Vous voulez dire que cette décision est essentiellement dictée par la réelle politique, monsieur le ministre?
Ah, c'est vraiment de la réelle politique. Si vous regardez bien les tendances de la politique étrangère du Burkina Faso, on a eu, si je mentionne à la Révolution, on a eu avec Thomas Sankara une politique étrangère qui était très très politique, qui était où il y avait beaucoup de sentiments, j'allais dire. Avec Blaise Compaoré, ce qui est arrivé à partir de 1991, ça a été une rationalisation de la politique étrangère. Et cette rationalisation signifiait qu'on va là où on peut trouver les intérêts. C'est ça qui nous avait amené d'ailleurs à rompre avec un certain nombre de pays, et aussi bien Pékin que Moscou d'ailleurs. Je me souviens que quand nous avons voulu rompre avec Pékin et aller avec Taïwan en 1994, j'étais le seul ministre à être contre, je l'avais exprimé ouvertement, en estimant que ce n'était pas la voie de l'avenir. Non, on a un pays comme le Burkina Faso, il n'y a pas d'autre politique étrangère que celle du développement. Et cette théorie de la diplomatie du développement n'est pas vraiment née, comme on le dit quelquefois, en 1996. Elle date de la deuxième conférence des ambassadeurs burkinabés en 1971. C'est-à-dire dire on n'a pas grand-chose. Eh bien, si on fait de la politique étrangère, elle doit nous rapporter quelque chose.
D'accord. Et comment qualifieriez-vous aujourd'hui, monsieur le ministre, la diplomatie ou plutôt la tendance diplomatique de Ouagadougou, puisqu'on sait que votre pays a également rompu avec la Corée du Nord à la demande des États-Unis?
Oui, nous regardons toujours là où nous pouvons trouver nos intérêts, et ça évidemment. Je reconnais que ce n'est pas toujours moral. Il n'y a pas de morale en matière de diplomatie et de politique étrangère. On regarde là où on peut avoir les moyens. Mais il faut savoir que les déterminants de la politique étrangère du Burkina Faso, c'est aussi l'environnement régional. Le Burkina Faso se trouve au cœur géographique de l'Afrique de l'Ouest. Et vous savez que Pékin refusait de mettre ses financements dans les projets régionaux dans lesquels se trouvait le Burkina Faso. Donc la fameuse boucle ferroviaire d'Abidjan jusqu'à Ouagadougou et qui descendait jusqu'à Niamey, mais ce n'est pas la seule chose.
Et récemment, le G5 Sahel. Oui, bien sûr. Le G5 Sahel.
Le G5 Sahel, c'est l'un des exemples également. Mais c'est assez typique que Le Burkina Faso n'a pas d'autres ressources à échanger que sa position géographique. Mmh. Cette position est essentielle. Il est impossible d'avoir aujourd'hui un organisme sous-régional ici qui tienne la route sans le Burkina Faso pour les raisons purement géographiques.
Oui, mais est-ce que c'est le Burkina Faso qui a choisi son propre agenda pour rompre ses relations avec Taïwan ou cet agenda a été imposé par la Chine, notamment avec le refus de financer le G5 Sahel?
Non, mais je pense qu'il y a eu les deux. Il y a eu les deux, mais vous savez, quand nous avions renoué avec Taïwan, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas Taïwan qui nous avait proposé de l'argent. C'était venu de nous. Et le gouvernement taïwanais a rappelé souvent que ce n'est pas eux qui étaient demandeurs, que c'est nous qui avions demandé. Mm. Et dans le cas d'experts ici, clairement, c'est le Burkina Faso qui est demandeur.
Et quelles sont les raisons qui ont motivé à cette époque-là ou qui avaient poussé le pouvoir de l'époque, celui de Compaoré, évidemment, à se rapprocher de Taïwan?
À l'époque, il y avait le mouvement d'ensemble, souvenez-vous, entre 71 et 73, il y a eu un mouvement d'ensemble dans toute l'Afrique de l'Ouest, dans toute l'Afrique dans son ensemble d'ailleurs, et qui faisait qu'on tendait tous à aller vers Pékin. En 94, ce qui s'est passé, c'est que le ministre taïwanais des Affaires étrangères avait fait une tournée en Afrique de l'Ouest. Sécurisement, il avait évité soigneusement Ouagadougou. On ne sait pourquoi. Alors que quand il y a eu les événements de Tiananmen en 89, Blaise Compaoré a été l'un des tout premiers chefs d'État à se rendre là-bas alors que pas beaucoup de chefs d'État n'y allaient. Ça n'a pas plu ici du tout et c'est l'une des raisons qu'il faut croiser avec la rationalité, le réalisme économique qui a fait que finalement on était retourné avec Taïwan.
Donc c'est un peu par représailles que le Burkina ou le président Compaoré avait décidé de se tourner vers Taipei plutôt que Pékin?
Ça correspondait à une époque de rationalisation de notre politique étrangère. Et cette rationalisation signifiait qu'on allait là où on pouvait avoir des financements. Avec Thomas Sankara, ce n'était pas ça. La donne idéologique comptait beaucoup avec Thomas Sankara. Avec Blaise Compaoré, à partir de 90-91, on est entré dans une rationalisation de la politique étrangère. Et c'est ce qui explique que... à l'époque, si vous avez remarqué, on a rompu avec Moscou, on a fermé notre ambassade à Moscou. Moi-même, j'avais été ambassadeur à Moscou et à l'époque, j'avais dit aussi que c'était une erreur d'ailleurs. À l'époque, on a refroidi complètement avec Téhéran, on a fini par fermer l'ambassade. Il n'y a qu'un seul pays avec lequel on est resté malgré cette rationalisation, ça a été Cuba. En dehors de cela, on a rationalisé complètement, mais c'est vraiment une tendance générale. La politique étrangère du Burkina Faso à l'époque.
Mais monsieur le ministre, est-ce qu'on peut faire table rase ainsi du jour au lendemain de plusieurs décennies de relations avec un pays?
Non, je ne crois pas. J'étais sur un plateau de télévision avant-hier avec plusieurs autres intervenants et je rappelais que Taïwan a énormément fait en termes de financement ici,
oui.
D'investissement ici, d'équipement ici. La formation professionnelle, les hôpitaux, l'agriculture, ils ont énormément fait. Mm. Et je pense, ce que j'ai d'ailleurs suggéré, que le gouvernement devrait négocier en dessous de manière à maintenir avec Taïwan tout ce qui relève du consulaire. Parce que les relations, on a 200 étudiants à Taïwan. Qu'est-ce qu'on va en faire?
Justement, c'est l'une des questions.
Dans des cas comme ça, ce qu'on maintient les relations du type consulaire, les relations, les échanges commerciaux, les échanges culturels, les étudiants, etc., etc. On n'a pas besoin de relations économiques pour ça. Et je pense que c'est dans ce sens que le premier moment de colère passait, parce que clairement, à Taïwan, ils ne sont pas contents, ça se voit.
Mais ils ne sont pas contents, Menegué Maurice Traoré, ils ne sont pas contents. Il y a même eu la démission du ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu.
Des affaires étrangères, oui. Ça se voit. Vous savez, quand on a rompu avec Pékin,
Il se trouve que j'assurais l'intérim du ministère des Affaires étrangères. Mmh. Je suis resté 5 ans ministre de l'Enseignement supérieur et pendant les 5 ans, c'est moi qui assurais l'intérim des Affaires étrangères. Il se trouve que c'est moi qui devais annoncer à l'ambassadeur de Pékin ici la rupture.
Oui.
Le fait que nous réunions avec Taïwan.
Oui.
Mais il faut savoir une chose, c'est que Taïwan n'a jamais dit. Le Burkina avait souhaité maintenir les relations avec les deux. Pékin n'a pas accepté. Mais Pékin n'a jamais dit qu'il rompait avec le Burkina. Pékin a dit qu'il suspendait ses rapports avec nous à l'époque.
Oui. Mais quand on voit la démission du ministre des Affaires étrangères, qui d'ailleurs impute la décision burkinabé à la Chine, est-ce que le gouvernement burkinabé, quelle peut être la position aujourd'hui diplomatique du gouvernement burkinabé vis-à-vis de ces nouvelles tensions qui aujourd'hui sont créées entre la Chine et Taïwan? Parce qu'on voit bien que la décision burkinabé en a rajouté, je dirais, aux tensions qui existaient déjà entre les deux pays.
Non, il n'y a aucun doute que la rupture du Burkina avec Taïwan c'est un effet dévastateur. Parce que jusqu'à présent, le Burkina était encore le pays, j'allais dire, qui compte dans les rapports que Taïwan a avec l'Afrique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et si on en est arrivé à la démission du ministre taïwanais des Affaires étrangères, ça veut dire que c'était important pour eux. Donc, je crois qu'on ne peut pas négliger ça. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je crois que notre gouvernement devrait prendre des initiatives de manière à atténuer les effets et de manière à maintenir des rapports. Écoutez, moi, j'ai dirigé notre ambassade à Washington avant de diriger notre ambassade à Moscou, à l'époque de Reagan et de Gorbatchev. Et je me souviens que le bureau de coopération des États-Unis de Taïwan à Washington, c'est plus grand que la plupart de nos ambassades.
Oui.
Ça veut dire que nous pouvons maintenir normalement des relations, je crois, bénéfique avec Taïwan. De toute façon, on est obligé de le faire.
Mais il faudrait qu'eux soient d'accord aussi, qu'ils acceptent cette offre de relations, je dirais, partielle ou simplement orientée.
Mais ça se négocie, ça. Mm. Ce n'est jamais donné pour acquis en matière de diplomatie, ça se négocie. Et moi, je pense qu'on devrait pouvoir négocier.
Francis, on écoute brièvement Xavier avant de passer à la pause. Monsieur le ministre, gardez la ligne, on reviendra à vous tout à l'heure.
On va écouter rapidement notre confrère, Xavier
Francis,
Messier.
Voilà. Xavier ?
Allô ?
Oui.
Est-ce que
oui.
vous êtes avec nous sur cette rupture des relations diplomatiques entre le Burkina et Taïwan ?
Ce que nous n'arrivons pas à comprendre, c'est l'écho que cette rupture a provoqué à travers le monde. On le sait depuis longtemps, la politique de Pékin par rapport à ses relations avec Taïwan, Pékin a toujours exigé qu'on ne pouvait pas avoir des relations diplomatiques avec la Chine, en même temps qu'avec Taipei. Ça a été une doctrine pratiquée depuis des années. On voit la série des outils de relations diplomatiques en Afrique. On connaît le cas du Tchad qui, après avoir bénéficié énormément d'un certain nombre d'investissements taïwanais, du jour au lendemain, comme ça, ils avaient décidé de rompre des relations diplomatiques. Ça n'avait pas fait autant de boucan. Bon, peut-être que le cas du Burkina Faso est tout à fait exceptionnel, mais en tout cas, c'est une réalité politique. Aujourd'hui, la Chine est en train d'investir à bout de bras, à tout de bras en Afrique, tout partout, à travers surtout son grand projet, la route de la soie. Et les pays africains s'engouffre dans ce projet-là pour bénéficier d'énormes potentialités économiques qu'offre la Chine. Donc, c'est du réalisme. On peut comprendre que si Pékin a exigé que la rupture des relations normales économiques avec le Burkina Faso passe par la rupture des relations diplomatiques avec Taïwan, c'est tout à fait normal.
Enfin, merci.
Très bien.
La politique que la Chine a toujours pratiquée.
Merci. On marque une pause.
Le débat Africa numéro 1 Paris, BBC Afrique.
Avec notre grand témoin invité dans cette édition, Mélégué Maurice Traoré, ancien président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, et notre confrère invité dans cette édition, au téléphone depuis Yaoundé, Xavier Messé, journaliste indépendant, enseignant en sciences de l'information et de la communication dans les universités du Cameroun. Liliane, on va peut-être poursuivre ce débat sur la rupture des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et Taïwan.
Monsieur le ministre, quelles sont les conséquences politiques possibles de cette rupture de relations entre le Burkina et Taïwan? Et à qui finalement profite réellement cette rupture? Est-ce que c'est à votre pays? Est-ce que c'est à la Chine?
Je crois que non. Clairement, ça profite au Burkina Faso. Je pense que au-delà des polémiques qu'on a ici là-dessus, c'est clair que cela profite, bénéficie au Burkina Faso, en tout cas au moins à moyen terme. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous savez, le projet de la boucle ferroviaire Cotonou, Niamey, Ouagadougou date de 1905, qu'on n'a jamais pu le réaliser, on n'a rien pu la réaliser. C'est pour la première fois qu'il y a des perspectives concrètes, parce que tout le monde espère que quelqu'un va intervenir là-dessus. Il y a ce n'est plus une question interne seulement, c'est aussi sous-régional. C'est pour cette raison que, clairement, cette reprise avec le ici au Burkina Faso. Je sais qu'en disant ça, certains ne seront pas contents au Burkina Faso. Ici, le fait que cela a produit, ce qu'on reproche ici au gouvernement, c'est d'avoir fait ça brutalement sans y mettre la forme. Pour l'essentiel, c'est les critiques qu'on fait ici, mais sur le fond, il n'y a pas beaucoup de gens qui critiquent ça.
Oui, mais en même temps, vous disiez tout à l'heure que Taïwan a beaucoup fait pour votre pays. Vous semblez regretter, regretter la façon dont... Vous dites que Taïwan a beaucoup fait et vous parlez également de ce projet sur lequel la Chine pourrait investir. Est-ce que vous voulez dire que Taïwan, malgré tous ses investissements, ne faisait pas ou ne fait pas le point devant la Chine?
Non, mais de toute évidence... madame, moi je suis un surfeur du nord de la Côte d'Ivoire, du sud-ouest du Burkina, et sinon on dit qu'on ne compare pas la mort et le sommeil. Donc on ne peut pas comparer là. Vous savez très bien que ce que Pékin peut apporter la Chine, Taïwan ne peut pas l'apporter.
Oui, mais
évidemment. Je posais la question parce que c'est vous qui avez dit que Taïwan avait beaucoup fait en 24 ans de coopération bilatérale.
Regardez quelque chose. Israël a énormément fait ici. Les premiers grands projets de reboisement dans les pays d'Israël au Burkina Faso, ça a été Israël.
Oui.
La loterie nationale Burkina Faso, ça a été Israël. Néanmoins, quand il a fallu rompre avec Israël en 1973, on n'a pas hésité du tout.
Oui, alors on entend chez vous essentiellement, monsieur le ministre, on entend chez vous essentiellement, je dirais, la diplomatie de l'intérêt. Hein, pour vous, seuls les intérêts économiques priment. Mais pendant longtemps, on a fustigé l'impérialisme politique et économique des États, des pays occidentaux, notamment les pays européens ou encore les États-Unis. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas, en Afrique, est-ce qu'on n'est pas en train de céder à une autre forme d'impérialisme, l'impérialisme économique chinois?
On verra, dans les faits briques, on n'en est pas là, mais c'est évident que si on évolue de la même manière qu'avec les Occidentaux, on va vers ça. Je vais souvent au Cameroun, je vais souvent au Mali, parce que je dirige le centre parlementaire panafricain. Et hier, en discutant avec des étudiants, on se disait, on trouve maintenant à Bamako des Chinois qui vendent des galettes au bord de la route.
Oui.
Et j'ai déjà vu ça au Cameroun aussi à Yaoundé. Pardon, à Douala. Je veux dire par là que on ne peut pas échapper à ça, mais on ne colonise que les gens colonisables. C'est les peuples colonisables qu'on colonise. Ça veut dire.
Et pour vous, le Cameroun et le Mali ne le sont pas?
C'est à nous à nous organiser. C'est à nous à nous organiser pour résister. Mais après tout, beaucoup de choses qu'on reproche aux Chinois dans les différents pays. Est-ce que vous avez remarqué que ça n'existe pas au Rwanda? Simplement parce que ils ont su s'organiser pour résister. À nous, à savoir nous organiser pour résister.
Monsieur le ministre, un mot sur la situation des étudiants burkinabés présents à Taïwan, hein, qui quand même s'inquiètent depuis quelques jours, hein, depuis la décision du gouvernement burkinabé. Et alors, est-ce que le cas de ces étudiants qui semblent être un peu oubliés aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas révélateur du caractère, je dirais, improvisé ou de la précipitation du gouvernement burkinabé en ce qui concerne sa décision vis-à-vis de Taïwan?
Non, c'est clair que la décision n'a pas été mûrie, elle n'a pas été stratégiquement préparée. Quand nous avons réuni avec Taïwan, j'étais ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et nous avions des étudiants à Pékin. Oui. Nous avons été en vain, une fois son élève Pantoua, nous avions négocié en vain avec Pékin pour qu'ils gardent les étudiants de Kinaver, parce que la question des étudiants, c'est comme le commerce, c'est d'ordre consulaire, c'est pas d'ordre diplomatique, donc ils auraient pu les garder. Mm. D'ailleurs, Pékin avait gardé les étudiants tchadiens et les étudiants nigériens étaient dans la même situation que nous. Mm. Pékin avait refusé catégoriquement pour les étudiants de Kinaver, donc on a été obligé de les transférer, de négocier avec Taïwan pour les transférer là-bas. Mm. On a actuellement les chiffres varient. On a actuellement certains 200, 250 étudiants que nous avons à Taïwan.
Oui.
Et chacun, on leur a déjà donné une semaine pour rentrer.
Ah oui.
Pour rentrer au Burkina.
Forcément, on va être obligé de négocier avec Pékin pour les replacer.
Pour les recevoir.
En Chine.
Ah oui.
D'accord.
Mais c'est un des éléments négatifs.
Ah ben oui, c'est effectivement.
C'est un vrai casse-tête. Oui. Monsieur le ministre, vraiment un mot sur l'adoption par le Parlement burkinabé cette semaine d'un nouveau code pénal qui abolit la peine de mort et qui devrait faciliter l'extradition vers le Burkina de François Compaoré, le frère de l'ex-président Blaise Compaoré.
Non, je peux vous dire qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Il n'y a pas de lien parce que quand j'étais président du Parlement, nous avons déjà tenté à l'époque. Et j'étais favorable, en tant que président du Parlement, j'étais favorable à l'abolition de la peine de mort parce que je suis convaincu que ça ne sert à rien dans ce domaine-là. Mmh. Il y a eu une évolution, il y a eu une tendance très forte dans la société civile, dans un certain nombre d'organisations, et je crois que on ne pouvait plus maintenir la peine de mort de toute façon. Je ne crois pas personnellement que c'est un lien directement avec le cas François Compaoré. Néanmoins, c'est sûr que
ça. Un de ses avocats estimait que demander à la justice française.
Il n'y a pas de lien direct, mais ça l'arrange. Pardon?
Non, je dis parce que l'avocat de François Compaoré avançait l'argument selon lequel si son client est transféré au Burkina, il risque la peine de mort. Donc, maintenant que la peine de mort a été abolie, certains pensent que ça devrait faciliter la décision de la justice française d'accorder cette extradition.
Non, mais c'est clair que ça facilite les choses pour François Compaoré, pour la situation de François Compaoré. Mais ce n'est pas lié à ça au départ. Moi, je peux vous dire ça.
Merci. On va juste préciser.
C'est un débat qu'on a depuis très longtemps. Et la dernière fois où on a tenté ça, c'était en 1998.
D'accord. Très bien.
Merci.
On va juste préciser, Liliane, si vous permettez, que voilà, aujourd'hui sur le continent africain, seul le Swaziland garde des relations avec Taïwan. Donc on imagine bien la grande solitude du Swaziland aujourd'hui après la rupture des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et Taïwan. On passe au deuxième sujet de cette édition, si vous voulez bien.
Le débat Africa BBC.
Avec notre grand témoin, Mélégué Maurice Traoré, ancien président de l'Assemblée nationale de Burkina Faso, et notre confrère invité depuis le Cameroun, depuis Yaoundé, Xavier Messé, journaliste indépendant. Nous allons justement au Cameroun à présent pour parler de la crise anglophone qui se double aujourd'hui de quelques tensions diplomatiques suite au communiqué qu'il a publié dénonçant des exactions commises par les forces de sécurité dans les régions anglophones du Cameroun. L'ambassadeur des États-Unis, Peter Henry Barlerin, avait été convoqué le 22 mai dernier au ministère des Affaires étrangères du Cameroun, où le ministre lui a signifié la désapprobation des autorités camerounaises. Il faut dire que le diplomate américain avait également invité dans son communiqué le chef de l'État camerounais, Paul Biya, au pouvoir depuis 35 ans, à organiser des élections et penser à, je cite, à la manière dont il voulait que le Cameroun se souvienne de lui, fin de citation. Des propos qui ont provoqué un vif débat dans le pays. S'agissant du conflit en cours dans les zones anglophones du Cameroun, le département d'État américain avait déjà, dans un rapport publié en avril 2017, émis des critiques sur la gestion de la crise par le gouvernement camerounais, soulignant surtout les pratiques répressives des forces de sécurité camerounaises. Et les mêmes critiques ont été d'ailleurs exprimées par l'Union européenne en février dernier par la voix de Catherine Rey, porte-parole du service extérieur de l'Union européenne, qui avait déclaré que, je cite, « le recours à la violence ne peut permettre d'atteindre les objectifs politiques. Il reste essentiel que les forces de sécurité fassent un usage proportionné de la force dans l'exercice de leurs fonctions ». Fin de citation. Première question pour vous. Forcément, Xavier Messé, vous êtes sur place. Cette semaine, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Issa Tchiroma Bakary, a organisé un point de presse pour montrer la réalité, selon lui, des actions menées par les forces de sécurité camerounaises dans les zones anglophones. Était-ce une réponse aux partenaires étrangers, aux États-Unis et à l'Union européenne notamment?
Écoutez, chaque fois que le Cameroun a été indexé, que ce soit sur le plan économique ou politique, le porte-parole du gouvernement, M. Issa Tchiroma, est toujours sorti pour soit démentir, soit apporter des précisions ou le point de vue du gouvernement camerounais. Et cette fois-ci, il n'a pas délégué à la règle, il a fait deux sorties, la première avec consécutive à la sortie de l'ambassadeur des États-Unis, et ensuite quand les responsables de l'Union européenne ont pris une position assez claire, assez précise. Le ministre était dans son rôle. C'est pas la première fois. Il a l'habitude de faire régulièrement des sorties chaque fois que le nom du Cameroun, que ce soit sur le plan économique ou politique, a été mis en cause.
Liliane,
on se demandait, Xavier, est-ce que l'internationalisation de la crise anglophone aujourd'hui, on peut par exemple évoquer le fait que ça a fait l'objet d'une discussion au Parlement britannique. On évoquait aussi l'entrée plus ouverte en scène des États-Unis. Est-ce que tout cela rend plus complexe la résolution de cette crise ou c'est plutôt une vraie chance de trouver rapidement une solution à une crise déclenchée il y a 2 ans?
Je ne pense pas qu'au stade actuel des choses, on puisse parler de l'internationalisation du conflit. Il y aurait internationalisation si, par exemple...
En tout cas, il y a une entrée en scène des acteurs extérieurs et des pays importants.
Oui. Mais jusque-là, est-ce que c'est une internationalisation? Je ne pense pas. Les grandes puissances ont l'habitude d'avoir des positions précises sur des conflits, des lieux de conflits, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans n'importe quel pays, prennent des positions. L'Union européenne le fait, Amnesty International le fait, International Crisis Group le fait, les États-Unis le font. Donc, s'il y a internationalisation, ça voudrait dire que, par exemple, les troupes étrangères sont entrées
aux côtés d'une des parties, peut-être.
Ce qui, aujourd'hui encore, n'est pas le cas. Mais je pense que les positions que l'Union européenne, le Parlement britannique ou les États-Unis prennent sont des positions tout à fait normales. De part et d'autre, ici actuellement, il y a quelques exactions inadmissibles. Personne ne pourrait accepter cela. On a vu les sécessionnistes poser des actes ignobles en tuant des gendarmes, en tuant des policiers, en allant poser des actes vraiment d'une horreur inqualifiable. On a vu également côté camerounais, du côté des forces de l'armée du Cameroun, des gestes d'une barbarie inacceptable. Donc, lorsque l'ambassadeur des États-Unis a pris position, il n'a pas pris position uniquement en condamnant un côté. Il a attiré l'attention de deux côtés. Il a surtout insisté sur le fait qu'il n'y a pas suffisamment de dialogue.
Est-ce que ces propos ont été bien compris par l'opinion camerounaise et une partie de la presse aussi, Xavier, puisque certains sont allés jusqu'à dire que ou accuser l'ambassadeur des États-Unis de vouloir provoquer une guerre civile au Cameroun?
Non, il y a eu un vocabulaire excessif là par rapport à la sortie de l'ambassadeur du Cameroun, que ce soit la presse camerounaise ou les autorités politiques camerounaises, il y a eu une réaction excessive. Parce que voyez-vous, ce que l'ambassadeur des États-Unis a dit, pratiquement tous les Camerounais le disent.
Oui.
Pratiquement tous les Camerounais le disent. Mais alors, il y a une mentalité, une culture camerounaise, c'est que lorsque un étranger, entre guillemets, se mêle des choses du Cameroun, alors vous allez voir qu'il y a un braquage total. Donc, lorsqu'on relit les propos de l'ambassadeur des États-Unis, on n'a rien trouvé d'anormal, absolument rien.
Je veux juste préciser, Xavier, vous avez raison, parce que qu'effectivement, il a condamné des exactions commises par les forces de sécurité, mais en même temps, il a condamné des meurtres de gendarmes, je cite, hein, des enlèvements de fonctionnaires et des incendies d'écoles imputés donc aux forces séparatistes. Et il a ensuite achevé sa critique en invitant les deux parties en conflit à engager un dialogue.
Jusque-là, il n'y a rien d'anormal, mais c'est la réaction locale à la fois de la presse, d'une certaine presse camerounaise, d'une certaine presse, parce qu'il ne faut pas dire que c'est l'ensemble de la presse camerounaise qui a condamné les propos de l'ambassadeur. Non, loin de là. Il y a une
Donc on peut dire que les autorités camerounaises sont, selon vous, responsables un peu de l'escalade qu'a créé cette situation, ou l'escalade dans cette situation?
Mais vous savez, Liliane, depuis 2016, on a vu cette situation commencer progressivement. Et à l'intérieur du Cameroun, que ce soit les médias, que ce soit quelques partis d'opposition, on a sollicité du gouvernement camerounais que de manière courageuse, qu'il prenne les choses à bout de bras et qu'on engage le dialogue avec la partie contestataire. Les avocats ont manifesté, les magistrats ont manifesté, et puis on a vu du coup, n'est-ce pas, les sécessionnistes s'emparer de celui-ci. Et on n'a pas vu du côté camerounais une véritable volonté de négocier. Et je pense qu'aujourd'hui, pour avoir laissé traîner les choses, pour avoir choisi le laxisme, on est en train de voir la situation s'envenimer au point où il risque d'être difficile maintenant à rattraper. Donc le laxisme gouvernemental, qui fait partie d'ailleurs de sa culture, a fait qu'on a laissé traîner les choses, on a envoyé de manière éparse quelques émissaires, notamment rencontrer quelques chefs traditionnels du village. C'est pas une négociation dans un problème aussi difficile que nous traînons depuis plus de 30 ans. Alors maintenant, la situation est en train progressivement d'échapper aux autorités camerounaises et nous pensons que...
Et de devenir incontrôlable. Merci. Merci Xavier. On va revenir à vous pour la conclusion. Monsieur le ministre, sur cette crise anglophone qui s'enlise au Cameroun avec des abus dénoncés par une partie des pays occidentaux. Monsieur le ministre, hein? Monsieur Traoré, est-ce que vous êtes là? Vous nous suivez? Donc, on demandait votre commentaire sur la crise anglophone au Cameroun qui, après 2 ans, est en train de devenir, disons, incontrôlable, comme l'estimait Xavier tout à l'heure.
Écoutez, la crise camerounaise, pour quelqu'un qui est d'Afrique de l'Ouest, nous avons été surpris, non pas à cause de la tension, mais à cause du fait qu'on en arrive jusqu'aux armes. On n'avait jamais pensé qu'on en arriverait aux armes au Cameroun. Mais à mon avis, c'est le style de décentralisation qui a été choisi au Cameroun qui est à l'origine de tout ça. Il y a bien sûr les bases qui étaient déjà illégales dès 1961. Mais je pense surtout que c'est le type de décentralisation qui a été choisi. Je vais vous prendre un exemple. Dans les pays d'Afrique de l'Ouest, quand on dit la décentralisation, dans les structures décentralisées, il n'y a pas de représentant du gouvernement, il n'y a pas de représentation de l'État, c'est la représentation des populations uniquement. Alors, moi, j'ai été surpris parce que j'ai été 15 ans commissaire général des scouts de haute voltaire, j'étais là-bas tout le temps, et l'une des surprises que j'ai souvent eues, c'est qu'on a, par exemple, vous avez à Douala les autorités déconcentrées. Et ensuite, vous avez un délégué du gouvernement. Personne ne comprend ça en Afrique de l'Ouest.
Qu'on appelle souvent le super-maire.
C'est le film.
Le super-maire.
Oui, on ne comprend pas ça en Afrique de l'Ouest, parce que quelque part, ça veut dire que la décentralisation est inachevée.
Inachevée.
Et je pense qu'il faudrait repenser complètement la décentralisation à défaut d'aller au référendum. Mmh. Je suis persuadé que le Cameroun reste un grand pays, c'est un pays qui a vraiment une place importante entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, mais probablement, il ne faut pas laisser la situation pourrir. N'oubliez pas qu'on est ici dans une zone très très sensible où on ne sait jamais comment évoluer les choses par rapport, y compris au terrorisme. Mm. Si l'aspect militaire atteint un certain point, vous ne pourrez pas faire à un moment donné la distinction entre les deux. Et c'est pour cette raison que je crois que le gouvernement camerounais devrait gérer ça avec beaucoup, beaucoup d'intelligence, beaucoup de retenue, et que en acceptant réellement qu'il y ait une décentralisation qui soit la vraie décentralisation.
Merci.
C'est comme ça que moi je vois les choses.
Merci. Juste une petite question rapide à Xavier Messé. Je voulais votre opinion, Xavier, sur un élément qu'on a pu observer lors du point de presse du porte-parole du gouvernement Issa Chiroma Bakary, qui a désigné photo à l'appui des ressortissants camerounais vivant aux États-Unis, en les considérant comme les instigateurs de la situation de crise dans les zones anglophones. Qu'est-ce que vous avez pensé, je dirais, de cette exhibition des photos de ressortissants camerounais vivant aux États-Unis et accusés d'ailleurs d'alimenter cette crise?
Oui, ce n'est pas un secret de dire, d'affirmer que les sécessionnistes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont des relais à l'étranger. Ce n'est pas un secret. Ça, on le sait, ils se sont prononcés régulièrement à partir des États-Unis, à partir de Grande-Bretagne et à partir de la Belgique. Ce n'est pas un secret. Alors, lorsque une organisation locale comme ça se met en place, dit qu'ils ont des relais à l'étranger, ça n'est pas une révélation.
Le fait de montrer leurs photos, de montrer des images, presque en désignant ces individus, est-ce que c'est pas une manière de désigner les États-Unis comme une terre de résidence de ceux que M. Chiroma Bakary qualifie de terroristes?
Certaines autorités camerounaises ont souvent dit que les sécessionnistes qui sont basés en Grande-Bretagne et aux États-Unis bénéficiaient du soutien à la fois financier, matériel et puis intellectuel. Ils l'ont souvent dit. Mais aujourd'hui, qu'il arrive à exhiber des photos comme il l'a fait, nous, ça nous a un peu gênés, mais nous pensons que le ministre peut assumer son comportement.
Xavier, un mot encore, s'il vous plaît, sur le risque de guerre civile. Est-ce qu'il est réel?
Le risque est très sérieux. Il est très sérieux parce que, voyez-vous, nous avons en face un gouvernement qui n'a pas la culture du dialogue. Là, c'est très, très important. Et maintenant, au point où les choses se sont rendues, si ce gouvernement engage les négociations, le dialogue, il va se considérer en position de faiblesse. Et ce qui n'est pas dans sa culture. Et maintenant, on ne voit pas les sécessionnistes qui commencent à marquer des points, ne serait-ce que dans l'opinion publique. On ne les voit pas en train de faire machine arrière. Il est question maintenant que le gouvernement, n'est-ce pas, accepte. Le ministre tout à l'heure a dit quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, dans la volonté des autorités camerounaises, il n'est pas question ni de décentraliser, ni d'aller vers une espèce de fédéralisme à deux États ou à 10 États.
Merci.
Donc, vous voyez, il y a un comportement sur lequel les autorités sont bloquées, sont cambrées. Et on
ils sont braqués.
On va éviter.
Merci Xavier. Sans transition, on va passer au dernier sujet. Des élections sont-elles possibles en Libye d'ici la fin de l'année? C'est l'échéance que se sont fixées cette semaine à Paris. Les principaux acteurs politiques libyens, ils se sont engagés à organiser des scrutins présidentiels et législatifs le 10 décembre 2018. Et était présent à cette rencontre le maréchal Khalifa Haftar, le premier ministre Fayez al-Sarraj, le président du Parlement Aguila Salah Issa et le président du Haut Conseil d'État Khaled al-Mishri, quatre principaux acteurs de la crise libyenne. Et pour le président français Emmanuel Macron qui a initié cette rencontre, c'est une étape majeure, on l'écoute.
C'est la première fois que sous ce format-là, l'ensemble de ces dirigeants, dont certains ne se reconnaissent pas mutuellement, se sont réunis, ont accepté de travailler ensemble et ont ensemble, vous l'avez vu, approuvé une déclaration commune. C'est une étape essentielle, importante, et qui rend possible ce qui maintenant va venir.
Monsieur le ministre Emmanuel Macron, enthousiaste, est-il vraiment réaliste d'envisager des élections en Libye à la date annoncée au regard de l'état des lieux actuels, notamment sur le plan sécuritaire?
C'est à moi que vous parlez?
Oui, monsieur le ministre.
Oui, non, moi je n'y crois pas. J'espère me tromper, mais je vois mal comment d'ici le 8 décembre, on pourra organiser des élections. Il y a des préalables, je pense, qu'il faut poser. Il y a une ambiance d'ensemble en Libye actuellement qui fait que je crois qu'il faudrait au moins créer un minimum de consensus entre les principaux organes, un minimum d'articulation entre eux avant d'envisager des phases opératoires comme celles des élections. Et puis, on va passer à des élections sans base constitutionnelle. Comment on fait?
D'accord. Oui. Merci. Monsieur le ministre, alors, aussi, même si on arrivait à organiser des élections, à quoi est-ce qu'elle pourrait servir? On a vu le cas en Centrafrique et au Mali où des élections ont été organisées en plein conflit, mais le constat aujourd'hui, c'est que cela n'a pas ramené la paix.
Non, mais c'est clair que la question centrale en Libye aujourd'hui, c'est clair que ce n'est pas les élections. Ce n'est pas les élections d'abord, c'est la création d'un climat minimal, de vivre ensemble un climat minimal où il y a ce que j'appelle l'articulation entre les différentes factions, les différentes structures, etc. On est bien placé en Afrique de l'Ouest pour comprendre ce qui se passe en Libye parce qu'on a suivi les effets de ça ici tous les jours. Depuis la déstabilisation de la Libye, toute l'Afrique de l'Ouest est déstabilisée. Quand le pays ou non, c'est comme ça que ça se passe.
Francis?
Et c'est pour cette raison que je pense que sur les 8 points qui ont été cités, il y a un nombre de points qui pourraient être... on a parlé d'élections présidentielles, d'élections législatives, de faire en sorte de constituer avec l'aide de l'ONU d'une armée qui soit relativement solide, etc. À mon avis, il y a un certain de préalable avant d'arriver à une élection présidentielle. Pour moi, ce n'est pas la priorité.
Ce n'est pas priorité. Mais, monsieur le ministre, juste une question. On a vu lors de cette rencontre à Paris que c'était le président français Emmanuel Macron et le représentant de l'ONU, l'ambassadeur Salamé, qui étaient à la manœuvre. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union européenne, était absent, tout simplement. De l'Union africaine, pardon. Merci, Liliane. Et puis voilà, il y a eu la grande discrétion aussi du président congolais Denis Sassou Nguesso, qui est pourtant chargé du dossier libyen. Est-ce que ne faut pas craindre que l'Afrique soit de nouveau en retrait à ce stade de la résolution, en tout cas de la tentative de résolution de la crise libyenne?
Alors, vous posez là une question de fond et qui est une question essentielle. Vous savez, la paix, elle n'est jamais venue véritablement de l'extérieur. Elle vient toujours quelque part, à un moment donné, décisive, elle vient de l'intérieur. Et je peux comprendre, le président Macron a fait de gros efforts. Je peux comprendre qu'on intervient de toutes parts pour aider les Libyens, mais la solution ne viendra pas de l'extérieur.
Merci.
Je ne crois pas.
Merci, monsieur le ministre.
Et là, vous faites intervenir maintenant l'Afrique. L'Afrique, dans tout ça, c'est quoi? On aurait pensé qu'ici, la tête de pont de tout ça, ce soit l'Union africaine. Ça devrait être l'Union africaine qui prenne les choses en main.
Bien sûr.
Et c'est pas l'ONU, par la France, par les deux grandes puissances, etc. Mais telle que c'est parti, elle ne voit pas où se trouve l'Union africaine dans tout ça.
Merci beaucoup. Il nous reste juste le temps d'écouter les messages recueillis par Sandra Bassabam, le message de nos auditeurs sur Internet. À tout de suite.
Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à tous. Voici les réactions des internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Sur le Burkina Faso, Mephis Kitty pense que le divorce entre Ouagadougou et Taipei est arrivé à point nommé. du fait que le Burkina Faso et la Taïwan ne s'entendaient plus. Et notre fidèle auditeur ne manque pas d'apprécier le récent accord signé entre la Chine et le Burkina Faso, qui pour lui est une occasion pour le gouvernement burkinabé de développer ses secteurs agricoles et industriels. Sur le Cameroun, Bibi Emmanuel Gogoua pense que la tension actuelle au Cameroun prend de l'ampleur du fait qu'elle n'a pas été bien traitée par l'État. Modibo Abdou se demande pourquoi le Cameroun est devenu un théâtre de crise et d'argumenter qu'après les actes terroristes dans le nord du pays, le tout revient aux habitants de l'Est d'essuyer des affronts. Et il finit par se poser la question, à qui profite la déstabilisation de ce havre de paix qu'est le Cameroun? La réponse à cette question ne viendra sûrement pas de Igor Amouzou, qui est plus préoccupé par le cas libyen. En effet, sur la crise libyenne, Igor Amouzou estime qu'à ce stade de la crise, il est difficile de trouver un consensus tant que les groupes rebelles ne vont pas déposer leurs armes. Car, dit-il, ces groupes armés ont le contrôle de la majeure partie du territoire. De ce fait, il pense que la tenue de la présidentielle semble impossible. Pancras Lovo, pour sa part, trouve que l'accord signé le 29 mai 2018 à Paris entre les protagonistes libyens est déjà voué à l'échec. Merci à tous. Merci de continuer à nous suivre sur notre page Facebook à l'adresse facebook.com/débat-bbc-africa. Et d'ici là, portez-vous bien.
Merci beaucoup, Sandra Bassabam. Monsieur le ministre Mélégué Maurice Traoré, est-ce que vous pouvez nous apporter une conclusion en 30 secondes? C'est court, mais vous allez certainement y arriver.
Ma conclusion, ce sera pour le Burkina Faso, pour avec Taïwan. Je suis persuadé que nous devons inventer un nouveau style de rapport diplomatique avec les pays. Et on devrait commencer par la Chine. Et je disais hier à la télévision qu'il faudrait mettre en place une espèce de conseil national de prospective et de réflexion stratégique sur la politique étrangère et la diplomatie. Si on le fait, on devrait pouvoir gérer ce genre de situation.
Merci beaucoup. C'était notre grand témoin invité dans cette édition, Mélégué Maurice Traoré, ancien président de l'Assemblée nationale de Burkina Faso. Merci également à notre confrère Xavier Messé qui est avec nous au téléphone depuis Yaoundé, journaliste indépendant, enseignant en sciences de l'information et de la communication dans les universités du Cameroun. L'émission a été réalisée à Paris par Valentin Blanc, régie technique assurée à Dakar par Noël Acapo. Chargé de production cette semaine, Sandra Bassabam. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs africa1.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine avec Liliane pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Bon week-end à toutes et à tous et bon week-end à vous Liliane.
Merci Francis Laloupo, ce sera avec un plaisir renouvelé évidemment. Au revoir et bon week-end.
Au revoir.